autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour revenir ensemble sur la sidération et la tristesse qui nous a tous saisis devant les images de Notre-Dame en flammes, en nous demandant pourquoi tant d'émotions partagées partout et par tous, où que l'on soit, qui que l'on soit, quoi que l'on soit sur cette planète. Qu'est-ce que cette émotion, cette sidération, cette tristesse partagée disent de nous, de notre passé, de notre présent et de notre futur commun ? Voilà ce que nous nous sommes demandé en préparant cette émission un peu spéciale. Regard croisé de penseurs, de philosophes, d'historiens, de conservateurs et même de physiciens autour de la question « Pourquoi tant d'émotions autour de Notre-Dame ?» Bienvenue.
Notre-Dame de Paris, la dame de tout le monde. C'est pas Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-François. C'est Notre-Dame. Donc d'emblée, l'homme qui vient, il est concerné par cette bâtisse qui s'appelle Notre-Dame. Donc il est pris dans le manteau de la Vierge, quasiment. Dans ses bras, Notre-Dame.
Notre-Dame de Paris, 850 ans d'histoire de France. Extrait du reportage de Si loin, si proche sur RFI. Nous aimions Notre-Dame, a confié aujourd'hui même le penseur Edgar Morin. Inconsciemment, disait-il, pour nous, incroyants et enfants de Paris, elle était gardienne et protectrice. Le cœur de Paris saigne et c'est quelque part l'un des cœurs du monde qui saigne, écrit pour sa part un autre philosophe. Bertrand Vergely, dans une tribune publiée aujourd'hui sur le site Atlantico, nous avons joint ce philosophe et théologien orthodoxe à Milan, où il nous a fait partager son sentiment que rien ne sera plus tout à fait comme avant. On écoute Bertrand Vergely.
À propos de cet événement, on s'interroge sur cet événement et j'ai l'impression que la réponse a été immédiatement donnée dans le sentiment collectif qui s'est emparé de la foule qui était là. Et je crois que d'abord, c'est quelque chose qui nous a fait reculer très très loin dans notre mémoire. C'est-à-dire qu'on vit davantage avec la Révolution française qu'avec le Moyen-Âge et la mémoire chrétienne, d'autant plus que nous sommes dans un monde laïque. Et là, à cette occasion, notre passé médiéval est revenu et nous n'étions plus la foule qui prend la Bastille, mais nous étions la foule que l'on trouve dans Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris. Donc il y avait quelque chose de très très ancien qui revenait à cette occasion, et c'était un peuple de Paris qui était au-delà du peuple de la Révolution française qui avait tendance à nier le passé du Moyen-Âge. Et ça, c'est très 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 important dans la mémoire. Vous savez, à un certain moment, si vous réfléchissez sur les Lumières, et en particulier sur Rabelais, pour Rabelais, le Moyen-Âge, c'est l'obscure infélicité des Goths. Et là, on n'est plus dans l'obscurantisme du Moyen-Âge, on est dans la splendeur du monde gothique et médiéval. Et ça, ça a été un sentiment très très fort. En fait, on s'est aperçu qu'on tenait énormément à ce passé, alors que nous sommes dans un monde très laïque qui a tendance à le nier. Donc ça, c'est un des éléments qui m'est apparu dans la foule. C'était pas une foule anonyme.
Évidemment, c'est aussi Bertrand Vergely, ce retour dans notre mémoire. On se rend compte à quel point on y tient finalement à Notre-Dame. Et puis oui, c'est aussi ce sentiment aujourd'hui de fragilité, que quoi que tout ce monde-là qui a tenu si longtemps peut s'effondrer sous nos yeux par accident.
Et si vous voulez, ça c'est le deuxième élément. Il y avait quelque chose d'invulnérable dans Notre-Dame qui passait à travers les siècles et en particulier à travers les guerres. Et tout d'un coup, au milieu d'un monde qui est un monde prospère, qu'est-ce que l'on voit apparaître ? On voit apparaître cette fragilité. Quelque chose s'est effondré. Il y a quelque chose aussi, c'est la raison pour laquelle on a été touché dans le cœur. Vous savez, il y a des symboles mondiaux comme ça qui traversent le temps. Et tout d'un coup, on est effondré. Quand les Bouddhas de Bamiyan se sont effondrés, on est quelque part effondré. Lorsque, à un moment, à Mossoul, les musées sont détruits, on est absolument effondré. Et là, c'était encore plus fort, d'autant plus qu'il y a une symbolique mariale à l'intérieur de Notre-Dame. Vous avez des symboles protecteurs. Notre-Dame, c'est un peu comme à Paris, comme Notre-Dame de la Gare à Marseille. Mmh. Vous voyez, c'est quelque chose qui est au centre, qui domine tout. Et quelque part, il y a une espèce de protection maternelle, comme ça, qui se fait au niveau de la ville et puis un petit peu au niveau du monde, vous voyez. Et là, on est ramené à notre fragilité. Il faut bien savoir que tout peut être remis en question d'une seconde à l'autre. Et en une heure de temps, on voit des choses qui ont mis des cités, qui ont traversé des siècles s'effondrer. Et ça, c'est extrêmement stupéfiant.
Tout à fait d'accord avec vous sur cette notion d'effondrement. Qu'est-ce que ça dit du coup? Qu'est-ce que ça pourrait dire de notre époque et vers quoi ça pourrait nous emmener? L'effondrement, c'est terrible, la fragilité, c'est terrible, mais peut-être que... Vous êtes aussi un philosophe de l'espoir, Bertrand Verjoli.
Si on devait dire, il y a quand même un énorme paradoxe. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons qu'au moment même où on essaye de réparer, pour conserver, tout s'effondre. C'est quand même étonnant, puisque c'est au milieu des échafaudages, en fait, pour réparer, que les choses s'effondrent. Moi, je crois que ce qui est intéressant, le sens, on le trouve dans la manière dont on a réagi, c'est-à-dire dont on a immédiatement réagi. Comment est-ce qu'on a réagi? On a réagi avec un sentiment de responsabilité immédiate. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a eu deux choses qui m'ont beaucoup frappé, la responsabilité et la compassion. La responsabilité, c'est de se dire, voilà, nous sommes de... est-ce que nous faisons assez attention à notre passé, à nos trésors, à tout ce qui, à un moment, est précieux dans l'humanité, dans la vie, mais dans l'existence? Et puis, d'autre part, je crois qu'il y a eu un grand sentiment de compassion à l'égard de l'Église catholique, qui actuellement est quand même assez sérieusement malmenée avec les affaires qui se déroulent en son train. Et tout d'un coup, il y a une volonté à la fois de dire on va rester dans l'unité, on va rester dans la responsabilité. Et puis, pour un temps, l'Église catholique, c'est plus qu'on a envie de critiquer. On ne frappe pas un ennemi à terre. On ne frappe pas quelqu'un qui est durement éprouvé. Et du coup, il y avait quelque chose de très beau, si vous voulez, à l'intérieur de ça. C'est-à-dire qu'on est ramené aux vérités fondamentales. Hein? Attention, il y a des choses sublimes dans l'existence, mais nous sommes fragiles malgré notre modernité et la puissance qu'elle nous donne. Et donc je crois qu'il y a eu cet équilibre qui s'est fait.
Notre-Dame, ravagée par les flammes, révélateur, révélatrice de notre fragilité, pour Bertrand Verjoli, philosophe et théologien qui sera le 12 mai prochain l'invité de Pierre-Édouard Deldic dans l'émission Idées sur RFI autour de son nouvel ouvrage « La vie a du sens », le sens que nous lui donnons. Autour de la question « Pourquoi tant d'émotions devant Notre-Dame ?» avant de poursuivre cette réflexion à chaud, en compagnie d'autres grands penseurs de notre temps, le philosophe et physicien Étienne Klein, le penseur Edgar Morin, le conservateur Christian Autain, l'historienne Isabelle Bacouche et le philosophe Souleymane Bachir Diagne, nous vous proposons d'écouter le violoncelliste Gauthier Capucin qui ce matin est venu sur le parvis de Notre-Dame avec son violoncelle. Pour un hommage musical, il a joué devant Notre-Dame incendiée après un rêve de Gabriel Fauré. Thank you. Après un rêve de Gabriel Fauré sur RFI, interprété par le violoncelliste Gauthier Capucin devant Notre-Dame ce matin. Autour de la question pourquoi une telle émotion autour de Notre-Dame, une émotion si intense, si singulière, qui a saisi même les plus athées d'entre nous, à commencer par le physicien et philosophe Étienne Klein qui a publié sur les réseaux sociaux un texte bouleversant qui convoque même Proust et Einstein. On écoute Étienne Klein.
Oui, en fait, c'est un texte que j'ai écrit à 23h. J'ai voulu me débrancher de ces images qui, en effet, obligeaient à trop d'émotions. Je me suis demandé, mais pourquoi ça me marque autant? Je ne m'attendais pas à ça. Tout le monde a une relation avec Notre-Dame. Et pour les Parisiens, c'est quand même la cathédrale dont les cloches ont sonné à la libération de Paris. C'est quand même un souvenir, même quand on n'a pas vécu comme moi, qui reste très fort dans la mémoire collective. Mmh. Et puis, soudain m'est revenu en mémoire un passage de Proust dans La recherche du temps perdu, dans lequel il parle d'une église. Et il écrit ceci: « Tout cela faisait pour moi, de l'église, quelque chose d'entièrement différent du reste de la ville. Un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre dimensions, la quatrième étant celle du temps, déployant au travers des siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. » Alors, je ne sais pas si Proust avait lu Einstein, mais en tout cas, ce qu'il dit ressemble à ce que propose la théorie d'Einstein de la relativité, qui nous fait penser qu'un volume à trois dimensions dans l'espace, c'est en fait un hypervolume à quatre dimensions, avec comme quatrième dimension le temps, un hypervolume qui a commencé de prendre corps dans la profondeur du passé et n'a jamais cessé ensuite de se translater d'instant en instant. Et je pense que ça, c'est une émotion que chacun ressentit quand on est devant la façade de Notre-Dame. On entre dans la profondeur du passé, comme si l'édifice était transparent, et on a l'impression d'entrer en relation avec les artisans, les ouvriers, tous ceux qui ont construit cet édifice sublime il y a plusieurs siècles. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que l'émotion est beaucoup plus forte que pour un immeuble normal.
C'est vraiment l'émotion quoi, de ce passage du temps où il y a une question d'espace-temps. Vous êtes vous-même physicien, philosophe, athée, ça touche les athées aussi bien que les croyants. C'est pas ça qui est en cause, là, c'est au-delà.
Pour moi, ça dépasse complètement le cadre religieux, même si on ne peut pas complètement l'abstraire. Mais c'est comme une mise en abîme, c'est-à-dire qu'on comprend que la persistance de ces grandes choses immobiles cache en fait une dynamique invisible, profonde, celle de la succession ininterrompue des instants qui ont transporté sa présence depuis sa première apparition. En fait, moi je vois Notre-Dame comme un très volumineux morceau de notre passé qui serait projeté sur la surface de notre présent. Et je pense que ça engendre une émotion tout à fait particulière, qui est particulière et en même temps universelle. Vous avez vu comment toutes sortes de gens à la surface de la Terre qui n'ont jamais mis un pied à Paris se disent émus par le spectacle de cette incendie.
Et Étienne Klein, c'est aussi symboliquement, il y a quelque chose que ça dit sur nous et sur notre temps. On a aussi l'impression d'assister à une sorte quoi, d'effondrement de notre passé ou...
J'aurais dit cela hier soir comme une sorte d'effondrement en effet, mais ce matin, enfin aujourd'hui, je suis plus optimiste. Je me dis que comme tout n'est pas détruit, Notre-Dame, c'est une sorte de bateau de Thésée. Vous savez, ce bateau dont les anciens se demandaient s'il conservait son identité à mesure qu'on en changeait les planches. Ben aujourd'hui, on va reconstruire Notre-Dame avec d'autres matériaux peut-être. Donc ça sera à peu près la même chose, mais avec des éléments qui pourraient être différents. Et je pense que les artisans, les architectes, les ingénieurs qui vont travailler sans doute avec beaucoup de ferveur à la reconstruction de Notre-Dame vont ressentir à leur tour quelque chose qui était de l'ordre de la passion qui animait ceux qui l'ont construite la première fois. Donc je vois Notre-Dame, même s'il y a eu des pertes irrémédiables, hein, par exemple il y a des bois uniques qu'on ne pourra pas retrouver, mais il me semble qu'il y a quelque chose de symboliquement très fort de pouvoir répéter un geste ancien qui a permis l'édification de cette cathédrale.
Nous allons pouvoir rajouter notre pierre à l'édifice, like a Rolling Stone, choix de circonstance d'Étienne Klein. On écoute Bob Dylan sur RFI. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you.
so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. Oh, you've gone to the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal? How does it feel? How does it feel
Bob Dylan sur RFI, Like a Rolling Stone, nous renvoie au tailleur de pierre de Notre-Dame et à ces pierres justement qui ont fait tenir la cathédrale malgré l'incendie qui l'a ravagée sous nos yeux. Autour de la question, pourquoi tant d'émotions autour de Notre-Dame, nous poursuivons nos interrogations, notre réflexion avec l'historienne Isabelle Bacouche du Centre de Recherche Historique de l'EHESS. Isabelle Bacouche a participé à l'ouvrage collectif Notre-Dame et l'Hôtel de Ville, incarner Paris du Moyen-Âge à nos jours. Alors justement, pourquoi Notre-Dame incarne-t-elle comme ça Paris jusqu'à aujourd'hui?
Je pense que Notre-Dame, au cœur de l'île de la Cité, donc je pense que ça c'est inséparable. L'île de la Cité, c'est quand même le cœur de Paris, le cœur politique de la ville. Autour duquel d'ailleurs il y avait des marchands et une animation économique, plus donc la construction de Notre-Dame à partir du XIIe siècle, mais il y avait déjà une église avant, et une polarisation sur l'île de la Cité, et Notre-Dame a traversé les siècles en restant finalement l'emblème, je crois, de ce cœur original de Paris. D'autant que c'était un emblème à la fois majestueux, avec une grande valeur esthétique. Et par rapport à d'autres bâtiments de la cité, comme le palais, on pourrait citer la Sainte-Chapelle aussi, mais c'était des lieux moins accessibles. Donc je pense que c'est aussi pour ça que jusqu'au XXIe siècle, finalement, la cathédrale s'est chargée de cette force émotionnelle et d'identification, finalement, des Parisiens et même des visiteurs à la ville. Mais cette identification, à mon avis, elle ne repose pas uniquement sur les qualités esthétiques de la cathédrale, même si elles sont certaines, mais surtout, je crois, l'accumulation des pratiques et des raisons pour lesquelles les Parisiens et les Parisiennes fréquentaient les abords de la cathédrale, le parvis. Donc ça, c'était il y avait une forme de familiarité. Hein. Alors, ils allaient à proximité de Notre-Dame, parce que Notre-Dame était sur l'île de la Cité, et donc à proximité de la Seine, et donc la Seine était aussi un espace grouillant qui attirait énormément la population parisienne. Il y avait aussi des cérémonies à Notre-Dame, des mariages, des funérailles, des tédéums, des processions. Donc tout ça, c'était des occasions, effectivement, pour porter finalement l'objectif sur Notre-Dame. Alors, par ailleurs, on l'a dit aussi, Notre-Dame, le bâtiment qui a été abîmé, l'édifice qui a été abîmé hier, ce n'était pas celui qui avait été construit au XIIe siècle. Il y a eu des remaniements, notamment ceux du XIXe siècle, mais il y avait quand même une forme de permanence, puisque la flèche qui a été remise par Viollet-le-Duc, finalement, c'était celle qui existait avant 1792. Donc, je crois que le bâtiment, en tout cas l'image qu'on en avait au milieu de l'île de la Cité, c'était vraiment, il incarnait ce fil, finalement, qui nous rappelait aussi notre histoire, même si elle est confuse dans notre esprit.
Ce que vous dites, Isabelle Bacouche, c'est que à la fois Notre-Dame était monumentale, est toujours monumentale, c'est ce fil qui nous relie dans le temps, mais c'est aussi à la fois une sorte de proximité, de familiarité avec Notre-Dame. C'est les deux en même temps, la majesté, oui, et la familiarité.
Voilà, parce que en fait, ça, depuis justement les aménagements d'Haussmann, de l'île de la Cité, le dégagement du parvis, il y avait quand même une vingtaine d'églises autour de Notre-Dame, des ruelles, des maisons. On a perdu de vue effectivement cet entassement urbain, ce grouillement des activités, des commerces qui s'installaient à proximité, parce que dans la ville finalement pré-haussmannienne, quand il y a une forte densité d'activités, donc ça attire encore plus d'activités et donc de Parisiens qui fréquentaient les abords de Notre-Dame. Donc du coup, comme le parvis n'était pas dégagé, il y avait aussi un caractère très imposant de la façade et de Notre-Dame sur le croyant qui devait lever les yeux pour admirer finalement et lire tous les bas-reliefs et toute la statuaire qui était sur le portail. Donc il y avait une domination de ce monument et en même temps une grande familiarité parce qu'il était totalement intégré à la vie quotidienne. Il y avait des échoppes autour. Voilà, on n'allait pas seulement à Notre-Dame pour des raisons religieuses, on y allait pour beaucoup d'autres raisons. Au Moyen-Âge, il y avait aussi le pouvoir de justice de l'évêque, qui était en rivalité avec le roi. Donc il y avait aussi des conflits dans lesquels les Parisiens s'inséraient et dont les Parisiens jouaient d'ailleurs. Donc voilà, Notre-Dame, ça incarne à la fois la majesté et cette monumentalisation de Paris qui n'a fait que s'accentuer à partir du XVIIIe siècle, et en même temps une familiarité. On fréquentait Notre-Dame pour toutes sortes de raisons, et pas seulement des raisons religieuses.
Et puis il y a un fil, vous le disiez, Isabelle Bacouche, qui nous relie finalement à toutes les époques et à tout ce qui est devenu, à l'évolution de Notre-Dame. Est-ce que vous pensez, puisqu'on parle déjà aujourd'hui de reconstruction, que ce fil il va tenir, que finalement Notre-Dame va résister, survivre?
Au XIXe siècle, ce qui a aussi, on va dire, ajouté à l'emblématisation, on va dire, de Notre-Dame, c'est évidemment la littérature, Victor Hugo. Donc je pense que ces strates de construction de la place de Notre-Dame dans la mémoire de chacun va subsister. D'autant que, en l'état, vu ce qu'on sait de ce qui est arrivé au bâtiment, certes on saura que la charpente n'est plus la forêt du XIIIe siècle, mais probablement une charpente, ce matin j'entendais dire qu'on la referait peut-être en métal ou en béton, et sûrement pas en bois comme elle était à l'origine. Donc il y aura forcément des parties qui ne seront plus celles qu'elles étaient. Mais bon, je crois que l'aspect extérieur du bâtiment va subsister, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres dégâts dans les jours qui viennent. Et ça, je crois que c'est quand même l'essentiel, puisque finalement, ce qui a été détruit n'était pas directement accessible aux visiteurs. Et de toute façon, on savait aussi que Notre-Dame, c'était un bâtiment du Moyen-Âge et du 19e siècle. Mmh. Hein. Donc, je veux dire, c'était déjà, de toute façon, la ville est sans arrêt une sorte de bricolage qui superpose toutes les époques. Donc là, Notre-Dame va, on va dire, ajouter une étape supplémentaire à sa mutation à travers les siècles. Donc, je ne pense pas que ça va bousculer le poids qu'elle représente à la fois dans l'espace parisien et dans l'imaginaire des Parisiens et d'ailleurs des habitants du monde entier.
La suite numéro 1 pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach sur RFI. Autour de la question, pourquoi tant d'émotions autour de Notre-Dame, une émotion patrimoniale partagée par tous et notamment par les étudiants de l'Institut National du Patrimoine à Paris, dirigé par Christian Autin, qui est conservateur en chef et que nous avons joint ce matin par téléphone. Écoutez son éclairage.
Alors, nos élèves sont extrêmement émus parce que le patrimoine est leur passion, évidemment, ils ont vocation à le servir. Ils sont d'autant plus émus que plusieurs d'entre eux avaient eu l'occasion, au cours de chantiers de collection ou au cours de stages, de travailler à Notre-Dame de Paris ces tout derniers mois. Et donc, pour eux tous, c'est un très gros choc et ils sont tous prêts à se mobiliser et à s'investir pour participer aux travaux de restauration et de reconstruction de la cathédrale qui auront lieu dans les années à venir.
Autour de la question, pourquoi tant d'émotions devant Notre-Dame, vous travaillez autour d'un concept qui est l'émotion patrimoniale. Et c'est vrai que là, bon, c'est un concept, mais là d'un seul coup on le sent un peu tous, à Paris mais pas seulement, tout autour du monde, un peu à l'intérieur de nous, cette émotion patrimoniale. Expliquez-nous ce que c'est, Christian Autin.
Alors l'émotion patrimoniale, c'est un concept qui a été forgé par un anthropologue qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Daniel Fabre. Il était professeur, directeur d'études à l'EHESS. Et dans les années 90, il travaillait à Toulouse et il avait été frappé de voir la mobilisation des Toulousains à l'occasion d'une campagne de dérestauration de Saint-Cernin de Toulouse. Saint-Cernin date du XIIe siècle, mais Viollet-le-Duc l'avait beaucoup modifié au XIXe siècle. Et dans les années 90, on souhaitait, sur la base de photographies, revenir à un état antérieur. Et en fait, il y a eu une mobilisation très forte de beaucoup de Toulousains contre cette dérestauration. Ce qui a amené Daniel Fabre à forger ce concept d'émotion patrimoniale, c'est-à-dire en fait de mobilisation populaire face à un péril ou un dommage qui atteint gravement le patrimoine d'une communauté. Puis c'est un thème qui a été travaillé par la suite par beaucoup d'autres chercheurs et qui est intéressant à mon avis parce qu'il fait surgir d'autres ressorts très puissants de ce qui fait la valeur patrimoniale d'un édifice.
Par exemple, quels sont ces ressorts?
Un autre exemple, alors à propos d'un incendie aussi, parce que c'est souvent à l'occasion de catastrophes majeures, il y a eu à la fin des années 90 l'incendie du château de Lunéville, peut-être qu'on... Les personnes s'en souviennent, et des anthropologues, Jean-Louis Tornator, Noël Barbe, ont par la suite étudié les réactions de la population de la petite ville de Lunéville face à l'incendie du château. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui ressort, ce n'est pas seulement ou pas nécessairement la valeur historique, la valeur esthétique, mais c'est plutôt la valeur affective, la valeur émotionnelle, la valeur de proximité de ce patrimoine qui, en fait, était un patrimoine approprié par les habitants de Lunéville parce qu'il y avait salle des fêtes, on y faisait des banquets, des mariages, des bar mitzvahs. Il y a toute une dimension intime, je dirais, qui est liée à la fréquentation du monument, qui fait que c'est ce qui fait patrimonial pour les gens, plus éventuellement que la valeur esthétique ou historique.
Est-ce que vous pensez, Christian Autain, que cette émotion patrimoniale, elle est... plus forte aujourd'hui? Alors évidemment Notre-Dame est un symbole parmi les symboles, mais est-ce qu'elle est plus forte aujourd'hui parce qu'on se pose aussi beaucoup de questions, qu'on a peut-être le sentiment aussi d'autres effondrements intérieurs ou de ce que nous sommes? Est-ce que vous avez l'impression que c'est encore plus fort?
Alors je pense que dans le cas de Notre-Dame, vous l'avez dit, c'est un symbole parmi les symboles, donc c'est effectivement encore plus fort, mais ça peut être intéressant de réfléchir à pour quelles raisons finalement est-ce plus fort. Parce qu'évidemment, la valeur historique, la valeur esthétique, la valeur architecturale de Notre-Dame, elle est connue et je dirais qu'elle est acceptée par tout le monde depuis très très longtemps. Aussi bien la valeur d'ailleurs de la cathédrale du XIIe, XIIIe siècle que la valeur de la cathédrale du XIXe siècle, reconstruite par Lassus, par Viollet-le-Duc, ça Jean-Michel Legnaud l'a très très bien étudiée. Mais il n'y a pas que ça. Notre-Dame de Paris, ce qui est fantastique, c'est que c'est à la fois une œuvre architecturale et une œuvre littéraire, grâce à Victor Hugo. Et au-delà de l'œuvre littéraire de Victor Hugo, c'est aussi des films, donc du cinéma, des émissions de radio, des comédies musicales. Et donc il y a une popularisation extrême du nom de Notre-Dame de Paris et du lieu Notre-Dame de Paris qui s'est diffusée, je dirais, très en amont, très très au-delà de la sphère architecturale ou de la sphère patrimoniale. Ce qui fait que le nom aujourd'hui est connu dans le monde entier pour le monument, mais aussi pour les histoires qui se greffent dessus. Ça, à mon avis, c'est peut-être une première chose qui fait que Notre-Dame de Paris est quelque chose qui touche au-delà du monument, qui touche beaucoup. Si vous voulez. Et puis, il y a une autre dimension qui est très importante, c'est cette idée aujourd'hui du patrimoine comme expérience, finalement.
Comme expérience.
Le patrimoine vécu comme une expérience. C'est-à-dire la visite d'un lieu qui vous immerge dans le passé, qui est une expérience du passé au présent, mais qui est aussi une expérience sur laquelle on va construire ensuite ses propres souvenirs, sur laquelle on va construire de l'affect. Et ça, un monument tel que Notre-Dame, qui est visité par 12 ou 13 millions peut-être de personnes par an, c'est pour des gens qui viennent du monde entier, au-delà de la connaissance du monument, un souvenir qui se fabrique, qui est lié à Paris, qui est lié à une expérience, en quelque sorte, de Paris, d'un site, d'une culture, d'un paysage, d'une immersion dans une culture qui est différente et que les gens viennent rechercher à Paris.
Donc finalement, Notre-Dame, oui, s'est inscrite véritablement dans notre mémoire collective, à tous les niveaux.
Elle est inscrite, à cet égard, dans la mémoire collective de l'humanité, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut voir ce que ça recouvre au-delà de la labellisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, par sa valeur universelle, exceptionnelle, a vocation à être partagé par l'ensemble de l'humanité et qui, de fait, l'est. Mais il y a peut-être aussi une dimension, pas seulement globale, si je puis dire, mais aussi une dimension très locale, qui peut-être peut jouer pour beaucoup de Français. Ce qui est, à mon avis, assez fascinant avec Notre-Dame de Paris, c'est que à travers Notre-Dame et l'hôtel de ville, qui lui est tout voisin, on retrouve, mais développé dans des proportions absolument colossales la figure finalement absolument topique du village français, de la mairie et de l'église. Tout le monde peut se dire, à Paris, voilà, il y a ici l'église et la mairie, exactement comme dans le village, comme dans la petite ville, comme dans la préfecture ou la sous-préfecture, avec peut-être d'autres cathédrales qui sont moins connues, qui sont célèbres. C'est une espèce de couple aussi qui se joue entre le spirituel et le temporel, entre le religieux et le laïc. C'est quelque chose qui recouvre aussi dans l'histoire de France des histoires qui ne sont pas si vieilles, d'opposition, de tension entre laïcité et religiosité, qui sont largement apaisées parce que la religion est vécue aussi beaucoup sur un mode culturel aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'il y a cette dimension un petit peu topique, finalement, de la figure de l'Église, propre à toute commune de France, qu'on retrouve dans Notre-Dame, et en laquelle chaque Français, en quelque sorte, peut voir un petit peu le miroir au sein de la capitale, de la propre Église de son village.
Notre-Dame, au cœur de notre village mondial et jazzy, je vous propose d'écouter le trio Hirschborn Svensson, Where We Used to Live, avant de retrouver à New York le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, qui nous livrera sa réaction autour de la question « Pourquoi tant d'émotions autour de Notre-Dame ?» Chers amis auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de RFI autour de la question « Pourquoi tant d'émotions devant Notre-Dame à Paris comme à Dakar, à Rio ou à New York ?» où nous sommes en ligne avec le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. Bonjour Souleymane.
Oui, bonjour.
Je voulais vous faire réagir parce que je sais que vous aussi, depuis New York... vous avez suivi, vous avez vu les images des flammes qui ont embrasé Notre-Dame. Votre émotion est partagée, la même que la nôtre. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qu'on ressent depuis New York, Souleymane Bachir Diagne?
Écoutez, j'ai d'abord été hébété. C'est mon fils qui m'a d'abord envoyé un texte très court, simplement, en me disant « Notre-Dame » avec des points d'exclamation. « Notre-Dame », j'étais loin de m'imaginer « Notre-Dame de Paris ». Me demander ce qu'il voulait dire, et ensuite, évidemment, avec tous les messages que j'ai reçus, je me suis rendu compte de ce qui arrivait. Très rapidement, après mes cours, je suis allé regarder ma télévision et j'ai regardé hébété des coins de Paris que je connais parfaitement, ce magnifique témoignage du génie humain que je connais parfaitement. Et j'ai regardé hébété, évidemment, comme tout le monde, et avec beaucoup d'émotion. Ces flammes et puis de l'aiguille qui s'est écroulée.
Ouais, hébété, oui. Vous dites. C'est vrai que c'est moi l'impression qui m'a pris aussi. On était hébété, sidéré. Oui. Comment vous expliquez finalement une telle émotion partagée par tous? J'ai moi-même été surpris de ma propre émotion et de celle de mon entourage partout. J'ai aussi reçu des messages de l'étranger, de partout. Comment vous expliquez finalement une telle émotion?
Mais écoutez, je crois que Joséphine Baker a raison quand elle dit qu'elle a deux amours, son pays et Paris. Mmh. Elle a raison. Je crois que Paris, de ce point de vue-là, et hier c'était le cas pour tout le monde sentait à quel point Paris était sa deuxième patrie. Et donc, et le cœur de Paris, c'est Notre-Dame. Je crois qu'on était... On était atteint dans son amour de Paris et que Notre-Dame est une image de l'amour que l'on peut porter à Paris, à mon avis encore plus que la Tour Eiffel.
Et oui, encore plus.
Là, oui.
Que l'on soit que l'on soit croyant ou athée, quelle que soit sa religion ou si on en a pas, c'était pas ça le propos. C'est ça aussi qui m'a frappé. Il y avait vraiment une notion.
Non, c'était pas ça le propos. Il y avait quelque chose de profondément spirituel, au fond, là-dedans.
Moi, absolument.
J'ai revu tous les différents moments où je suis entré dans Notre-Dame, où j'ai toujours ressenti, évidemment, je ne suis pas catholique, mais où j'ai toujours senti effectivement la forte spiritualité du lieu. Tous les amis que j'ai amenés là, tous les gens que j'ai rencontrés là, avec qui je suis entré dans Notre-Dame. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, on a un lien spirituel très profond à Notre-Dame, indépendamment des appartenances religieuses. Et je crois que c'était une composante extraordinaire de l'émotion ressentie.
Oui, c'est ça, une émotion partagée partout. À New York, voilà, c'est le début de la journée, mais aux États-Unis, l'émotion est forte elle aussi.
Est très forte, par exemple, entre gens qui nous connaissons, on a presque envie de se présenter des condoléances. Et à ce point-là, vous voyez, voilà, on dit simplement c'est incroyable, on répète les mêmes phrases, que c'est incroyable de voir les flammes dévorer comme ça Notre-Dame. Et tout se bouscule, évidemment. On a parlé de la place que Notre-Dame occupe dans la littérature. C'est au point où, lorsque j'ai entendu que la toiture s'était effondrée, je me suis presque demandé ce qu'il allait arriver à Quasimodo. Comme si c'était un personnage réel. Vous voyez, tout ce qu'on projette sur Notre-Dame, on se disait que Quasimodo allait perdre les toits où il allait se réfugier. Enfin, voilà.
On était nous-mêmes.
On se rend compte de la place que Notre-Dame occupe dans nos imaginaires au moment justement où on voit cette scène extraordinaire des flammes qui l'attaquent.
Je vous remercie beaucoup Souleymane Bachir Diagne, je vous souhaite une belle journée à New York, merci d'avoir répondu à notre appel. Autour de la question pourquoi tant d'émotions autour de Notre-Dame, je vais probablement laisser la conclusion à l'un des plus grands penseurs de notre temps, le sociologue et philosophe Edgar Morin.
Notre-Dame est un symbole très fort, et quand on dit le mot symbole, le vrai symbole, il contient la présence de ce qu'il a symbolisé. Et dans ce sens, Notre-Dame est un symbole pas seulement du catholicisme, et pas seulement du christianisme, pas seulement de la religion, de la foi, du besoin de la ferveur de la foi. C'est aussi un symbole très fort de Paris, c'est un symbole très fort de la France, et si vous voulez, en même temps, cet incendie nous frappe parce que ceux qui étaient voués à l'immortalité est soudain frappé de mortalité. Heureusement d'une mortalité provisoire et limitée puisque les deux tours restent. Mais enfin, nous avons vu sans arrêt brûler Notre-Dame. Et donc, si vous voulez, c'est parce qu'il y a tous ces symboles liés que je fais partie de ceux qui ressentent une émotion viscérale. Parce que je sens que c'est à la fois mon Paris, que c'est à la fois ma France, que c'est à la fois aussi le patrimoine culturel de l'humanité, et qui sont touchés dans cet incendie, dans ce feu. Et la seule chose qui m'amène à conclure en disant que si ce feu peut servir à quelque chose, qu'il nous avertisse, nous, Français, dans les conditions que nous vivons actuellement d'incertitude, de désarroi et de péril, qu'il nous incite à éviter l'incendie dans la nation.
Merci Edgar Morin, que cet incendie nous empêche d'embraser nos cœurs et notre pays. C'est le meilleur que l'on puisse collectivement nous souhaiter. Merci à Hugo Violas et à Juliette Brault pour la réalisation et la préparation de cette émission que nous avons réalisée rapidement et avec tout notre cœur autour de la question. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour d'autres interrogations autour des premières fois de l'humanité en compagnie du préhistorien Nicolas Tessandier. Merci de votre curiosité et de votre fidélité, chers amis auditeurs. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure d'un prochain journal.